Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Les ouvriers et la droite.
J'avais un oncle qui était militant communiste. Et mon père était un ouvrier de droite. Et tous les samedis, c'était le jour du pot-au-feu à la maison. Et mon oncle venait dîner à la maison avec mon père. Mon père, j'ajoute, il était sourd. Donc il y avait un dialogue fantastique, toujours politique, dans lequel mon père engueulait mon oncle à cause de ce qu'avait raconté Maurice Thorez, et mon oncle engueulait mon père à cause de ce qu'avait raconté le colonel de la Roque.
Jean Boissonnat, qui anima à la télévision tant de débats gauche-droite, surprenait un peu quand il rappelait qu'il en avait connu aussi dans sa famille ouvrière. Les socialistes et les communistes ont toujours affirmé que c'était constitué avec leur concours une culture ouvrière autonome. La classe ouvrière existait, le vote était la forme démocratique de la lutte des classes, les ouvriers votaient à gauche, c'était aussi simple que ça. Mais alors que dire de la fraction significative des ouvriers qui choisissaient la droite ? On peut certes remarquer que son histoire est faite seulement de segments discontinus, le moment boulangiste, le moment gaulliste. Pas de tradition continue, installée dans une idéologie, rien qu'on puisse célébrer. De toute façon, même à gauche, l'heure n'est plus à la célébration de la classe ouvrière. On ne dit plus qu'un jeune travailleur vaut davantage que tout l'or du monde. C'est plutôt un délaissé, appelé à se débrouiller par lui-même. Un nouvel imaginaire s'est même dessiné dans certaines parties de la gauche. Les ouvriers qui étaient naguère glorifiés sont aisément stigmatisés. Ils témoigneraient d'une France archaïque, xénophobe, homophobe, etc. Il est vrai qu'un vote d'extrême droite s'est pour la première fois enraciné durablement dans le monde ouvrier depuis 30 ans maintenant. Mais à trop le considérer, on risque d'oublier que le premier parti chez les ouvriers, c'est l'abstention. Conséquence du délaissement, où ils sont laissés après avoir été centraux. Prolongement aussi d'une très ancienne attitude interrogative. En réalité, les ouvriers ont toujours manifesté de la distance par rapport à la politique, sachant d'expérience qu'ils n'en tireraient pas facilement un intérêt objectif, ils ont toujours eu moins tendance que d'autres à l'idéaliser.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Xavier Vignat, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Donna chez Perrin, il y a quelques années, un maître livre sur les ouvriers au XXe siècle. Hamon, Mélenchon, Fillon, Macron, Métron. Je voudrais qu'on dise un mot de Métron, parce que c'est le printemps du Métron. Métron.
Oui, Jean Métron, instituteur, historien, et qui a lancé, dans les années 50, un fantastique dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, qui est devenu le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, mouvement social, qu'on appelle le Métron parmi les historiens. Et les directeurs du Métron, Claude Pentier et Paul Boulan, organisent demain à la Sorbonne
Un grand débat
autour du
métron. Plusieurs heures.
De plusieurs heures, parce que justement, on aborde la nouvelle période du métron, c'est-à-dire les années 68. Et donc, le 22 mars, anniversaire du mouvement étudiant à Nanterre, on va occuper la Sorbonne pour parler du métron.
Alors, voilà. Faut s'inscrire maintenant. Hein, métron.org, vous trouvez les indications sur notre site. Et vous avez publié à la Découverte une sorte d'encyclopédie des écritures ouvrières. Extraordinaire livre sur toutes les enquêtes qui ont eu lieu sur le monde ouvrier, sur la participation à l'écriture des écrivains populaires, où on s'aperçoit d'ailleurs que le plus régulier des enquêteurs, celui qui a fait l'ouvrier le plus systématiquement, le plus longuement, c'est un nommé Valdour, dont moi je n'avais jamais entendu parler. Évidemment, il était de droite.
Évidemment, parce que justement, il y avait une énigme qu'il fallait éclaircir. Et donc ce médecin, qui est un médecin militant de l'Action française, antisémite, fervent catholique, va pendant une trentaine d'années faire l'ouvrier, effectivement, dans toute une série de contrées de France, pendant le premier XXe siècle, entre 1900 et 1930 environ.
Alors dites-moi, on va commencer avec la Troisième République, c'est un peu normal que les ouvriers n'aient pas tous été républicains, parce que la Troisième République s'est construite au début plutôt sans eux, la République des Jules, Ferry, Grévy, Simon, c'était des ruraux, les petites villes.
Absolument, et puis d'abord il y a l'écrasement de la Commune, hein, qui en 1871, qui éclaircit considérablement les rangs du mouvement ouvrier, et c'est simplement dans les années 1880 que progressivement ces républicains vont prendre en compte la question sociale, comme on le dit à l'époque. Et aujourd'hui, 21 mars, nous fêtons la 1884, c'est la loi Waldeck-Rousseau sur qui légalise les organisations syndicales.
C'est venu quand même au bout d'un moment.
C'est venu quand même et progressivement. Sociales. Voilà, c'est à partir des années 1880-1890 que la République prend en compte ses ouvriers, d'autant plus que les grèves s'allongent à ce moment-là.
Alors on est étonné aujourd'hui de la longue présence du Front National. On y reviendra dans le monde ouvrier, mais il y a eu souvent pendant la République des flambées politiques. Les ouvriers se plaisaient à faire des embardées. Le moment du général Boulanger, la fin des années 1880. Il y avait pas mal d'ouvriers. Et puis, qui se souvient de l'aventure oubliée des jaunes ? On est autour de 1900.
Absolument. Les jaunes. Les jaunes. Un mouvement qui naît en fait au Creusot en 1899. Un mouvement donc qui se dit jaune parce que au départ c'est pour une anecdote mais simplement les vitres d'un café qui avait été cassé ont été colmatées avec du papier jaune. Mais un mouvement donc qui a été assez important puisqu'il aurait rassemblé environ 100 000 personnes à son apogée et qui défendait la question de la propriété. Ça c'est très important chez les ouvriers de droite, la question de l'ordre, et qui est parvenu à rassembler toute une série d'ouvriers conservateurs anti-cégétistes dans cette promotion, et Biétry, son leader, qui est un vrai leader ouvrier, est élu député de Brest en 1906.
Un livre de Christophe Maillard, sur notre site aussi, aux éditions Vendémiaire, vient de paraître sur l'aventure des jaunes. Néanmoins, ce qui fait pelote, ce qui est plus massif, c'est le mouvement socialiste, puis le mouvement communiste, qui choisissent de doter les ouvriers d'une culture symbolique autonome.
Voilà, il y a tout un travail de politisation de ces militants en direction des ouvriers pour justement, comme disait Pelloutier, hein, c'est la grande ambition de Pelloutier.
Les bourses du travail.
Les bourses du travail, voilà. La science du malheur. C'est-à-dire, il faut que les ouvriers acquièrent cette science de leur malheur et donc les arracher à cette espèce de lutte quotidienne pour qu'ils se politisent. Et donc, ça passe par les organisations syndicales, ça passe par les bourses du travail. Ça passe évidemment par les moments électoraux où on discute avec les ouvriers, on va vers eux et en même temps, et ça c'est très très important, surtout pour les communistes, on sélectionne des cadres ouvriers et on les promeut pour représenter cette classe. C'est-à-dire que ce qui est très important dans la gauche du premier XXe siècle, c'est sa capacité à faire émerger d'authentiques leaders ouvriers.
L'émancipation, maître mot.
Maître mot, maître ambition. Que celle de sortir justement ces ouvriers, pas simplement de l'exploitation, mais de les libérer, y compris intellectuellement, culturellement, etc.
L'émancipation, c'est le nom du journal du maire communiste de Saint-Denis, Jacques Doriot. Alors lui aussi, c'est comme Biétry, un leader ouvrier à la Chambre.
Oui, un vrai ouvrier, fils d'ouvrier, né dans l'Oise, installé à Saint-Denis, effectivement, militant communiste de choc. Et qui bascule à l'extrême droite à partir de 1934.
Il fait sécession à Saint-Denis, créant le Parti Populaire Français. Le voici à la tribune.
Français, le Parti Populaire Français groupe des hommes venus de partout. Communistes, socialistes, radicaux, volontaires nationaux, ligueurs, nationaux, d'autres qui n'avaient jamais fait de politique. Ouvriers, paysans, intellectuels, producteurs et commerçants y sont fraternellement unis. Le Parti populaire français fera de l'État le guide moral de tout le peuple et l'arbitre indépendant de ses conflits économiques et sociaux. Il organisera l'économie française en substituant au désordre actuel un système de groupement corporatif déterminant librement les conditions de la production. Il instituera la collaboration permanente des ouvriers, des techniciens, des patrons et rendra parallèle les progrès techniques et les progrès sociaux.
Libère-toi, France, libère-toi. Secoue le jour des luttes fratricides. Que l'étranger importe sous ton toit. Sous le couvert de promesses perfides. Que le français soit maître de ses lois. Hommes du pays, les porteurs de querelle, nous ne subirons pas votre tutelle. Libère-toi, France, libère-toi.
Les luttes fratricides que l'étranger apporte sous ton toit. Dans les attitudes droitières que peut avoir le monde ouvrier français, il y a une question importante, c'est celle de la concurrence de la main-d'œuvre étrangère.
Oui, parce que depuis les années 1880, le patronat a eu besoin de recruter des ouvriers étrangers Et ces ouvriers étrangers ont servi aussi à maintenir des salaires bas. Donc, pour les ouvriers nationaux, il s'agit d'une concurrence, et d'une concurrence dite déloyale, d'où des explosions de xénophobie régulières qu'on repère dès les années 1880, à Marseille en 1881, à Lyon en 1894, etc., etc., et jusque dans les années 30. Et ce qui était marrant, entre guillemets, dans le discours de, et la chanson, c'est cette opposition.
Que vous découvrez, là, que vous avez
Oui, je découvre. Ouais. Donc, voilà.
Je suis content de vous les avoir apportés en prime.
Mais c'est justement, c'est toujours cette opposition entre les Français et les étrangers, comme si les étrangers étaient ceux qui apportaient la division. Bon.
Mais quand on lit votre ami Valdour, le grand enquêteur de droite, bah lui, il décrit sans cesse l'invasion étrangère pouilleuse.
Absolument. Il est obsédé par cette présence, alors qu'il documente de manière extrêmement fine, hein, sur à Billancourt par exemple, à Lyon, à Troyes, enfin bon, dans toute une série d'endroits comme ça. Et pour lui, c'est un véritable danger. C'est un véritable danger, y compris un danger moral. Parce que là, il y a toute une vieille hantise de l'extrême droite. Ces gens-là sont non seulement dangereux politiquement, mais presque biologiquement.
Mais il faut comprendre aussi les réactions du monde ouvrier. Sécurité, autorité, ça fait partie des demandes des familles ouvrières. Ordre, sans lesquels on ne peut espérer construire un monde meilleur pour ses enfants.
Absolument. Il y a une ambition qu'on peut considérer comme parfaitement légitime. À une aspiration, à une élévation sociale. Et effectivement, ça passe par des possibilités, le respect du travail, le respect de la propriété acquise péniblement.
Le respect de la propreté.
Le respect de la propreté, bon, voilà. Et donc, il y a toute une série d'aspirations qui ne sont pas propres au monde ouvrier, mais qui existent dans le monde ouvrier, qui peuvent être récupérées par la droite.
Alors, une interview brève d'ouvriers d'autrefois, Charles Baillet, ça n'a pas la qualité des enquêtes ou des livres d'ouvriers dont vous faites le recensement, Xavier Vignat, c'était dans les années 1980 à la télévision, et Charles Baillet est un ancien serrurier de Normandie.
Alors vous êtes ouvrier puis vous êtes gaulliste,
hein ? Oui, je suis gaulliste, et je n'ai jamais changé, tandis qu'il y en a qui tournent casaque, moi j'ai jamais changé.
Toujours gaulliste.
Toujours gaulliste depuis que je le connais, depuis 1940. Mais c'est surtout en 1944, à la fin, que j'étais gaulliste. Et tout le monde était gaulliste à ce moment-là. Si vous avez déjà vu des épisodes à la télé de la libération de la France, tout le monde était pour De Gaulle. Seulement, au bout de quelques temps, les politiciens, ça les évitait quand même, parce que on ne pouvait pas être tout le monde gaulliste, alors ils sont arrivés à reprendre le dessus.
Mais pourquoi vous êtes gaulliste? Parce qu'en général, les ouvriers n'étaient pas forcément gaullistes. Hein.
Mais si nous avons un peu d'autorité aujourd'hui vis-à-vis des autres, c'est grâce à De Gaulle. Parce que si on avait écouté les Américains et les Anglais, on n'aurait plus la parole. Et c'est lui qui a insisté pour qu'on ait un représentant là-bas en Russie. Tandis que si les autres, on n'aurait pas eu la parole. Je ne vous dis pas que De Gaulle, tout ce qu'il a fait était bien, mais il a fait de belles choses. Et c'est aujourd'hui qu'il est mort que beaucoup le regrettent.
Avoir toujours les mêmes têtes, dans le travail et dans les fêtes, en uniforme ou en civil. Ils commencent à se fatiguer et voudraient bien se reposer au lieu de trotter de ville en ville. Les villes, elles se croient obligées de lui offrir pour le fêter à boire quelque horrible piquette. Et les enfants, les centenaires, les bals et les anniversaires, il en a par-dessus la tête. Pourtant, que sa campagne est belle, comment peut-on s'imaginer en le voyant battre des ailes que son automne est arrivé.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Les ouvriers et la droite, en compagnie de Xavier Vignat, qui publie un livre sur les écritures ouvrières aux éditions de La Découverte. C'était sur une suggestion de Martin Penet, un pastiche d'un chanteur communiste bien connu, par Suzanne Cabrillo, qu'on peut quand même classer plutôt à droite, pour évoquer un moment important pour les ouvriers quand ils votent à droite, c'est le moment gaulliste.
Oui.
Il y a eu deux moments dans le moment gaulliste. Il y a le RPF, le parti d'opposition qu'il crée en 47-48, qui a eu jusqu'à 600 000 membres, presque autant que le parti communiste à l'époque, et puis le moment du pouvoir en 58.
Oui, oui, et ce qui était intéressant dans l'interview de ce serrurier, c'est d'abord la manière dont il se revendique comme ouvrier. Aujourd'hui, c'est pas sûr qu'un serrurier se dirait ouvrier, pourrait se dire artisan, enfin, bon.
Et son sociologue dirait, il est peu diplômé.
Voilà. Et en même temps, son attachement au général de Gaulle remonte à la guerre. Il est articulé avec une volonté de défendre la France et un attachement à la question nationale, un souci de l'autorité, toute une série de valeurs qui sont dans le RPF contre le Parti communiste et qu'on va retrouver ensuite dans les années 60 une fois que de Gaulle est au pouvoir. Et dans cet attachement d'une fraction des ouvriers, à peu près un tiers. Hein, un tiers des ouvriers voteraient, selon les études, un tiers des ouvriers voteraient à droite en juin 68 aux élections qui font suite au mouvement de grève. Justement, cet attachement à l'ordre, à l'autorité, à la propriété, légitime ce vote de droite, ce vote en faveur.
Alors il y avait des gaullistes de gauche, le général de Gaulle disait c'est mes bonnes bouteilles mais j'en ai pas beaucoup à la cave, qui disait le capitalisme du point de vue de l'homme ne donne pas la solution satisfaisante, le général opinait du bonnet, juste prix, juste salaire, union des classes par l'association capital-travail.
Ça, c'est un discours très important là, dans le discours gaulliste, qui a une vieille histoire en fait, hein, parce qu'on pourrait faire remonter ça jusqu'à la question de la doctrine sociale de l'Église. Il s'agit de dépasser la lutte des classes par des nouvelles formes de relations entre le capital et le travail. Donc la collaboration, là on va avoir l'association, toute une série de...
Plus tard, la participation,
toute une série de mots qui veulent montrer qu'on dépasse cet antagonisme. Sauf qu'on est essentiellement dans l'incantation et qu'en termes de réalisation, ça débouche quasiment sur
Mais
rien.
Entre nous, vous croyez que c'était ça qui intéressait les ouvriers dans le choix du gaullisme? Parce que on en sait plus à partir des années 50-60 grâce à des enquêtes très très sérieuses qui sont faites sur le vote des ouvriers. Alors vous êtes un moine qui cherchait dans les bibliothèques les textes des écritures ouvrières. Michelat et Simon, il faut quand même leur reconnaître leur mérite, sont des ascètes qui regardent les chiffres, qui en tirent des conclusions un peu étonnantes.
Oui, alors ces deux chercheurs justement prennent au sérieux cette question du vote, font des enquêtes sur la politisation et justement ils montrent que les ouvriers, comme toute une série de fractions des mondes populaires, sont largement dépolitisés.
Ah. Et y compris les ouvriers de gauche.
Ben justement.
Ils croient pas à l'URSS quand ils sont communistes.
Pas nécessairement. Et donc il faut tout un travail de politisation qui est fait par les organisations syndicales, par les partis politiques, pour leurs élus en qui ils ont confiance pour justement faire émerger ces processus de politisation.
Parce que dans une maison ouvrière bien tenue, il n'y a pas nécessairement d'exigence radicale de rupture avec la société. Il y a l'idée qu'il faut affirmer sa dignité, accéder à de meilleures conditions de vie et de travail, mais on ne croit pas nécessairement au grand soir.
Non. Non. Et d'ailleurs, y compris chez les ouvriers communistes de l'époque, on ne croit pas nécessairement au grand soir. Mais voter communiste, c'est voter ouvrier. Et donc, c'est une dimension qui n'est pas une dimension proprement révolutionnaire, c'est aussi une dimension d'affirmation sociale.
Donc, vous êtes en train de nous dire que le niveau d'attente politique était assez bas chez les ouvriers, même quand ils votaient majoritairement à gauche.
La majorité des ouvriers, oui, à l'instar de toutes les autres fractions de la population.
Peut-être davantage que d'autres fractions de la population.
Sans doute davantage.
Mais ils n'idéalisent pas la politique parce qu'ils n'en attendent pas objectivement des résultats transcendants.
Oui, mais ils attendent de leur mobilisation une amélioration du quotidien. Et c'est la gauche qui incarne à ce moment-là, pour la majorité d'entre eux, 70% dans les années 70 quand même, progressivement se rallier à la gauche.
Le tournant Tenez, je vais vous faire une découverte loin d'Agondange. Xavier Vignat, c'est une pièce de Jean-Paul Wenzel qui interprète le rôle d'un vieil ouvrier qui s'est installé dans un pavillon périphérique et qui continue à travailler l'acier. Il fait des tables chez lui dans son atelier garage. Et la grande André Tinci, sa femme l'observe.
65 ans. Les fours sont arrêtés. Les fours Martin sont arrêtés. Il n'y a plus de bruit ici. Pour vous reposer, ce sera l'idéal.
3 ans. Pas un bruit. Tu n'y arriveras pas à rattraper le temps, mon pauvre Georges. Nous n'aurions jamais dû quitter Agondange. La campagne me pèse. Toujours le même paysage immobile. Et toi aussi, je le sens, tu vieillis, mon pauvre Georges. Le temps passe. Que sera, sera. Demain n'est jamais bien loin. Que sera, sera.
Mais qu'est-ce qu'on fait ici, Marie? Qu'est-ce qu'on fait ici?
Les villes délocalisent leurs industries. C'est dans le milieu rural que doivent vivre dorénavant les ouvriers. La grande industrie diminue. On ne produit pas de produits industriels davantage aujourd'hui qu'en 1996. Et Ayange, Front National, c'est à côté d'Agondange.
Oui, et oui. Là, il y a un moment de bascule très très important. Où une fraction des ouvriers, environ 1 sur 7 aujourd'hui on estime, a basculé dans le Front National, vote pour le Front National. C'est minoritaire, 1 sur 7. Le premier parti ouvrier n'est pas le Front National, comme on le répète trop facilement, c'est l'abstention. Mais il est vrai qu'une fraction a choisi le vote d'extrême droite.
Et c'est une conséquence d'un sentiment de délaissement ou de dépréciation. Les commentateurs vous expliquent ça longuement, Xavier Vignat. J'aimerais qu'on regarde maintenant comment l'imaginaire de gauche aussi s'est transformé à mesure que l'ouvrier est passé plus visiblement à droite. Alors vous parlez souvent d'Édouard Louis, Eddy Bellegueule, que nos auditeurs connaissent sans doute, et qui est le fils de Prolo Picard, et qui explique, fiction ou pas, comment il s'est détaché d'eux, jusqu'à refuser leur apparence physique. C'était ceci, une interview de lui dans une émission d'Aurélie Charron, il y a peu de semaines sur France Culture.
J'avais l'impression que le corps était la manifestation la plus évidente et la plus violente d'un passé que j'avais pas choisi. À un moment de ma vie, j'ai perdu 40 kilos, j'ai fait refaire mes dents, j'ai appris une autre manière de parler, une autre manière de m'habiller, j'ai jeté tous mes habits à la poubelle. J'ai passé du temps devant un miroir pour m'apprendre à parler autrement, pour m'apprendre à rire autrement. Je voulais que tout change, je voulais même tatouer ma peau pour que ma peau ne soit plus la même. Je voulais n'avoir plus rien en commun. Et c'est vrai que quand aujourd'hui je vois des photos de mon grand frère, par exemple, On a l'air de deux étrangers. C'est ce que dit ma sœur dans Histoire de la violence. Elle dit, quand je regarde Édouard, on est comme deux étrangers. Et ça, cette transformation-là, elle est le lot de beaucoup de gens aussi. Parce que on choisit pas qui on a été. On choisit pas l'histoire qui nous gouverne. Et très souvent, avec les moyens qu'on a, on essaye de se créer contre cette histoire.
Xavier Vignat.
Propos étonnant.
Trahir, c'est être fidèle, peut-être, pour une certaine gauche.
Je m'interroge. Ce qui est très intéressant, c'est que le corps, c'est la classe. Le corps, c'est l'incarnation de la classe. Et Édouard Louis, dans son qui change d'identité, qui change de classe, qui change de région, a besoin de renier sa classe. Voilà. Donc là, c'est assez intéressant. Comment...
Peut-être qu'être fidèle, c'est trahir. Enfin bon, on va finir avec les paradoxes continués.
Et en tout cas, par là, ce qui est plus, plus problématique à mes yeux, c'est que il légitime tout un discours de dépréciation du monde ouvrier. Son livre oscille tout le temps entre l'autobiographie et la fiction, mais le problème, c'est que il reproduit un discours selon lequel les ouvriers sont, comme vous le disiez dans l'introduction, alcooliques, xénophobes, homophobes, etc., etc.
Ce qu'il dit des Picards, vous l'avez retrouvé, vous, dans les enquêtes que vous avez recensées ?
Oui, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on s'amuse comme ça. En 1901, le tribunal de commerce d'Abbeville fait une enquête sur les ouvriers du Vimeux, hein, la région dont il est originaire, et on a déjà ces stéréotypes sur l'alcoolisme ouvrier, le fait que ce sont des brutes. Et donc ce discours de gauche, qui se veut un discours progressiste, etc., en réalité, reproduit un vieux discours conservateur de dépréciation du monde ouvrier.
Donc à droite, pour l'ouvrier, le travail, c'était l'autorité, la sécurité, la possibilité de la promotion. À gauche, le travail, c'était la coopération et l'innovation. Et il y a une partie de la gauche maintenant, pour qui le travail, c'est fini, quoi.
Ben, c'est là un peu le problème. C'est-à-dire comment conquérir une dignité pour les fractions dominées s'il n'y a plus le travail. Le travail était un moyen de construire des solidarités, effectivement, de s'approprier une dignité, de conquérir une place aussi, une reconnaissance. Je crois que la question du travail est une question qui n'est pas simplement une question économique, c'est une question sociale. Et il faut reconnaître le travail.
C'est votre péroraison, mais vous pouvez en dire encore davantage.
Non, mais je pense que là-dessus, si on s'intéresse à ça et si on revient sur le Vimeux, justement, on peut regarder ce qui se passe autour de d'Abbeville, justement, actuellement, et la Picardie de manière générale. On est dans ce moment où Whirlpool est en train de fermer, de délocaliser en Pologne. Il y a une mobilisation autour de François Ruffin pour empêcher ça. Dans
J'étais
la même
sûr
région,
que vous alliez parler de ça.
Eh ben, ça me semble intéressant de regarder de Fakir et de Picardie debout pour regarder ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais c'est très intéressant qu'il y ait une tentative d'un intellectuel, un journaliste, de reconstruire des alliances. C'est un travail que la gauche n'avait pas fait depuis très longtemps.
La solidarité, donc, à partir des lieux de travail. Le printemps du Métron, grand amphi de la Sorbonne, demain, l'entrée est libre si on s'inscrit, de 14h à 22h. Votre livre aux éditions de la Découverte sur les écritures ouvrières et chez Perrin, toujours, vos ouvriers au XXe siècle. Merci à vous, Xavier Vignat.
Merci.
L'émission a été préparée par l'équipe de la Marche de l'Histoire, Franck Oliver, Frédéric Martin et Limka Negulesco, avec à la réalisation Valérie Aestaraï et à la technique David Federman. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez, cher Mathieu Vidard, dans La Tête au Carré ?
Oui, aujourd'hui, journée internationale de la trisomie 21. Jean, on parlera du regard de la société, du corps médical, d'ailleurs, sur la trisomie.